Bien. On va parler ce soir des Malchouyot. Alors, je rappelle, à Moussaf de Rosh Hashanah, la Amida, Shmoneh Esrei, elle est un peu différente. Elle est, si vous voulez, il faut imaginer, c'est la même chose que lors de Pessah, Shavuot, ou lors de Yom Tov. Il y a toujours, comme dans toutes les Amidot, toujours trois brachot d'entrée, trois brachot de sortie, et au milieu, normalement, on parle de la fête. Donc, Yom Tov comme Shabbat, la Amida, elle a sept bénédictions. Trois devant, trois à l'arrière et une au milieu. Et à Rosh Hashanah, on en ajoute trois, mais la première des trois qu'on ajoute, on la fusionne avec la bracha sur le Yom Tov lui-même. Ça veut dire que la bracha du Yom Tov, c'est une bracha qui doit terminerait par exemple à Pessah, à Shavuot ou à Sukkot. On termine Baruch Ata Hashem, Mekadesh, Israël, Ve'azmanim. Et à Rosh Hashanah, on va terminer Mekadesh, et puis Israël toujours, mais aussi on va à la fois mentionner. On va mentionner Rosh Hashanah, la fête elle-même, et on va mentionner la bracha spécifique qu'il y a sur les Malchouyot. Alors, je m'explique. La mitzvah tayom, la mitzvah du jour, c'est la sonnerie du shofar. Et le shofar, comme le Rambam dit, il vient nous réveiller pour qu'on fasse tshuva. Mais il vient proclamer la royauté divine, d'une part. Ensuite, il vient mettre en marche un processus de souvenir. Et troisièmement, il va y avoir une mention du chauffard, justement, de qu'est-ce que c'est que le chauffard, quand est-ce qu'on sonne on sonne le chauffard. Alors, ce qu'on va faire, à chaque fois, ça sera toujours la même chose. On va faire 10 versets qui parlent de la royauté. On va faire ensuite 10 versets qui parlent du souvenir. Peut-être qu'Hachem se souvient de l'homme, il se souvient du monde. Et ensuite, 10 versets qui parlent du chauffard. Et puis après avoir dit ces 10 versets, alors par exemple, prenons le premier, 10 versets qui parlent de la royauté divine. Et ensuite, il y a une bracha justement sur cette royauté divine. Une bracha qui va terminer en disant que Hachem est le roi. On va dire que Hachem est Melech al kol. Il est Melech sur le monde entier. Essentiellement, c'est ça. Et ceci étant dit, on a donné ces 10 versets, on a fait cette bracha qui termine par le fait que on dise Baruch Ata Hashem, tu es Melech du monde, et ensuite on sonne du shofar. On sonne du shofar, la sonnerie du shofar étant toujours la même, c'est toujours une grande tskia, un son long d'entrée de jeu, en fait. Et à la fin aussi, ce même son long, et au milieu, un son interrompu. Ce son interrompu, c'est de lui qu'on parle dans la Torah, il s'appelle Teruah. Tav, Resh, Av, Ein, Hei. Teruah.
En vérité, on ne sait pas ce que c'est la foi. Seulement, on a cherché où est-ce qu'on trouvait un terme proche de la foi. Et curieusement, on l'a trouvé à un endroit où personne n'irait jamais le chercher. On l'a trouvé concernant des pleurs, des sanglots. C'est un son qui sonne comme des sanglots. Et il se trouve que ce sont les sanglots de la mère du général Sisra, qui était un général qui était toujours victorieux, mais qui, comme vous le savez probablement, a été tué par Yaël. Yaël a eu le courage de tuer cette espèce de géant, et la mère du général Sisra, qui avait l'habitude de voir toujours son fils revenir triomphant, il ne vient pas, il ne revient pas, il ne revient pas, jusqu'au moment où elle comprend qu'il ne reviendra jamais, et elle sanglote. Et donc, le terme qu'on a trouvé, qui est proche du mot « troua », ce sont les sanglots de Madame la mère, pas Madame, c'est pas vrai, c'est pas Madame, de la mère de Sisra. Alors, les sanglots, nous, on est en France, on connaît que les sanglots longs de Voltaire, de Verlaine, mais la Torah, elle connaît aussi d'autres sanglots, des sanglots courts, on a déjà dit plusieurs fois. Et donc, on va faire les deux. Comme on ne sait pas, on n'est pas sûr, alors on va faire les deux. Alors, on va faire les sanglots longs, ça c'est les fameux tut, 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 trois. Les sanglots courts, c'est tut, 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 tut. Comme quelqu'un qui sanglote comme ça. Et alors on va faire les combinaisons. On va faire les trois tout seul, entre deux tkiot, entre deux longs. Ensuite, on va faire les sanglots courts tout seul, entre deux tkiot. Puis ensuite, on va faire la combinaison sanglots longs qui deviennent courts. Entre deux, toujours entre deux tkiot. Et dans ces sanglots longs qui deviennent courts, il y a deux, on en distingue deux. On distingue les sanglots longs, tu, 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 respiration, et puis ensuite ça part, tu, 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 tu. Et puis, l'autre version, c'est les sanglots longs, tu, tut, tut, et sans respiration, tut, 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 tut. Donc, on fait toutes ces combinaisons-là, on ne fait pas les autres parce que ça n'existe pas, on ne commence pas par pleurer à sanglots courts et ensuite les sanglots longs. Voilà, donc c'est ce genre de tkiot, enfin ce sont ces tkiot-là qu'on va faire. Et puis, une fois qu'on aura fait ces tkiot-là, alors on va dire à chaque fois, on va proclamer Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, alors on a l'habitude de dire aujourd'hui c'est la création du monde. En vérité, Harat Olam, le Harat, c'est pas vraiment la création elle-même. C'est pas vraiment, c'est le même lachon que Herayon, qui est la grossesse. Ça veut dire aujourd'hui, c'est un le monde est gros, c'est-à-dire on est juste avant l'accouchement. Et puis ensuite, on va adresser une demande à Hachem, on va lui demander d'agréer les tkiot qu'on a faites pour proclamer sa royauté. Puis ensuite, on a la même structure. 10 versets pour le souvenir, une bénédiction qui se termine, Baruch Ata Hashem Zocher Abrit, qui se souvient de l'alliance, c'est la Akeda, c'est la référence à Yitzhak, qui est le personnage central de Rosh Hashanah, Yitzhak Avinu. Par exemple, la corne de bélier, elle vient du Korban qu'Abraham Avinu a substitué à Yitzhak Avinu. D'accord? Il a trouvé le fameux bélier, donc il a fait la Shrita, il a fait un korban pour remplacer, si on peut parler comme ça, le substituer à la Akeda de Yitzhak, donc cette centralité d'Yitzhak le jour de Rosh Hashanah. Ensuite, il y aura donc, après avoir dit ces versets, comme la dernière fois, la bracha Zohar Abrit, et ensuite, sonnerie du chauffard, les mêmes que celles des Malkuyot, et ensuite, on demande à Hachem d'agréer, justement, nos sonneries de chauffard qui venaient ponctuer ou à mettre l'accent sur le problème du zikaron, du souvenir. Ensuite, 10 versets concernant, qui nous parlent du chauffard. On nous parlait du chauffard qui, il y avait les sons du chauffard à Matan Torah, on parle du chauffard, en particulier du chauffard qui annoncera la venue du Mashiach, etc. Et ensuite, une bénédiction concernant le chauffard. Alors, la bénédiction concernant le chauffard, elle met l'accent sur le fait que Hachem écoute notre prière, il prête l'oreille à nos demandes, en quelque sorte. Et voilà. Donc, la bracha, c'est quand il écoute le chauffard. Et ensuite, on dit de nouveau Ayom Harat Olam. Et puis ensuite, on demande à Hachem d'agréer les sonneries de chauffard qu'on a faites pour parler du chauffard qui est la mitzvah du jour. Voilà. Donc c'est ça qu'on ajoute. Ça s'appelle Malchuyot, verset concernant la royauté. Zichronot, verset concernant le souvenir, et Shofarot, verset concernant le chauffard lui-même. C'est clair? Alors ce soir, on va parler un peu des Malchuyot. Le Ramban, sur le Passouk, Hashem Imloch, le Olam Va'et, c'est un passouk qui a été dit par l'Ebné Israël lors de la Shira, au passage de la mer, quand ils ont fait ce fameux cantique Aziashir Moshe, etc. Ils terminent ce cantique par Hashem Imloch Leolam Va'ed. Et le Ramban dit Amar ki hera ata. Hachem a montré à cette occasion-là, au passage de la mer, qu'il était le roi, qu'il avait le pouvoir sur toute chose, qu'il pouvait sauver ses serviteurs et faire se perdre, donc détruire ceux qui se révoltent contre lui. Alors, Ken yiye haratson milfanav, le Ramban continue, il dit que ce soit la volonté d'Hachem, la sod bechol hadorot leolam, de faire ainsi dans toutes les générations. Ça a été dit à la génération de la sortie d'Égypte et du passage de la mer, et le Ramban dit, et c'est une petite prière du Ramban en quelque sorte, lo yigra mitzadik enav, lo yalimeu, Minar Shaim Amarim, ou Baou Beze Psukim Rabim. Donc il faut que ce soit comme ça pour que le tzaddik reçoive sa bonne part, que les Roshaim soient sanctionnés. Il y a beaucoup de Psukim qui disent ça, dit le Ramban, il en cite quelques-uns. Et c'est la raison, c'est que, enfin, donc il avait peur de ça, parce que, enfin, qu'on dise que Sheh Malchut le Elohim hi le Ol Me'ad. En fait, c'est une espèce de reproche qui a été fait au Bnei Israël. Pourquoi est-ce que vous avez dit Hashem Yimloch le Olam? Hashem allait dans le futur régner. J'aurais dû dire Hashem Melech. Hashem règne maintenant. Vous venez de le voir. Donc, Unkelus, pour cette raison, il a traduit au présent. Il n'a pas traduit Yimloch, il régnera, mais il en a fait un présent. Il a dit Hashem Malchute Kaem Le'olam Ololme Olmaya. Que la royauté divine, elle est là pour l'éternité et elle aura lieu jusqu'à la fin des temps. Et il dit que le Ramban dit, je ne comprends pas pourquoi il a jugé nécessaire de traduire de cette manière-là, c'est-à-dire de ne pas tenir compte de ce qui est effectivement dit, c'est-à-dire Yimloch et pas Melech, parce qu'en fait il y a d'autres psukim, c'est marqué Yichvod Hashem Leolam Vimalek Vodo et Kol Haaretz, donc Yitgadel Vitkadesh, ça veut dire Yoman Yigadel, Shimcha, etc. Qu'est-ce que dit le... Alors, le Rav Volbe dit là-dessus, les paroles du Ramban, elles sont en quelque sorte une introduction au Malchuyot. Pourquoi ? Parce que on l'entend dans ces paroles du Ramban que le problème de la royauté, c'est-à-dire de proclamer la royauté divine, le problème c'est pas proclamer la royauté en tant que telle. Mais ce qu'on veut de cette royauté, on veut qu'elle se dévoile, la royauté. On sait, la théorie, on la connaît, on sait bien qu'Hachem est le roi. Mais la demande, c'est que ça se dévoile. On veut que concrètement, ça se voit qu'Hachem est le roi. Il faut que ce soit évident, cette royauté d'Hachem dans le monde. Et quand ils ont dit Hachem Yimloch, c'est une prière. La prière c'était qu'Hachem veuille bien se dévoiler et que ce dévoilement ait lieu toutes les générations jusqu'à la fin des temps. La traduction de Onkelos semble dire que lui, il a compris qu'on parlait ici de la connaissance, le savoir qu'Hachem est roi. Que c'est ça qu'il valait la peine de mettre dans la Shira, dans le cantique en question. Le savoir que « Hu Yitbarach Melech Olam Va'ed » ça fait partie des choses qu'il y a à se répéter, il faut le chanter. Alors que le Ramban, lui, parle de dévoilement de la royauté divine, elle est cachée, elle se dévoile. Donc, en fait, ce sont deux aspects des choses. Savoir, intégrer ce savoir dans le cantique, ou bien parler de demander un dévoilement de cette royauté. Donc ça veut dire que dans la royauté divine, il y a quelque chose qui est de l'ordre du Hester. Hester, c'est Hester Panim, le visage caché. Il y a dans cette royauté un élément de mise, d'empêcher, enfin de parler de ce que cette royauté elle ne se dévoile pas. Et il faut dire ici, à cause de ce que ça ne se dévoile pas, il est nécessaire de proclamer qu'il l'est, puisqu'on n'expérimente pas la royauté divine. Alors on pourrait penser, ben, si je n'expérimente pas, c'est qu'il n'y en a pas.
Quand ils ont dit la Shifa, c'était avant la Tatiana.
Avant quoi?
Avant la Tatiana.
Oui.
Depuis qu'il y a Amalek, c'est dit dans le
chapitre. On peut dire, on verra si c'est effectivement comme ça qu'il faut l'entendre. Le Ramban, il n'a pas mentionné la manette. Donc, ce Esther Panim, c'est lui, parce que c'est caché, alors il faut proclamer que c'est vrai, que bien que ce soit caché, c'est néanmoins vrai. Alors, on voudrait que ça se marque dans les lois de la nature, dans la nature elle-même. Et même si en fait, dans un ouvrage très célèbre de Rabbi Yehuda Halevi qui s'appelle le Kuzari, le Haver, c'est-à-dire le juif en fait, qui défend la Torah devant le roi des Khazars, il pose la question. Mahuateva, qu'est-ce que c'est la nature? Et il ne savait pas quoi répondre. Parce que c'est quelque chose, en fait, qui cache Hachem. Qui cache la divinité d'Hachem. Le Olam, le monde, c'est la même racine. Olam, c'est la même chose que, c'est la même racine que Ne'elam, caché. Aïn Lamed même, c'est la notion de quelque chose de caché. La nature, elle a l'air d'être autonome. Donc elle nous cache l'intervention permanente d'Hachem dans le monde. Et bien que, effectivement, dans le Kuzari, c'est développé cette idée, mais ce sont des choses sur lesquelles on voit très bien qu'aujourd'hui encore, il y a une possibilité de kfira. On peut nier la divinité d'Hachem parce qu'on ne la voit pas dans la nature. Quand je dis qu'on ne la voit pas, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de la voir. En vérité, si on regardait bien, on la verrait, mais en tout cas, au regard standard, on ne la voit pas. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une possibilité de nier cette royauté divine? Pourquoi est-ce qu'il y a ce côté Esther, ce côté caché de la royauté? Pourquoi la royauté n'est-elle pas essentiellement quelque chose qui se dévoile, qui est visible, qui s'impose même? Le secret, de ce mal-là, le fait que, effectivement, il y ait cette kfira possible, nous disons que, par exemple, les cieux racontent le kavod d'Elokim, Maaseh Yadav Yagidu, l'œuvre des mains d'Hachem raconte que c'est lui le créateur. Alors c'est quoi? Ça veut dire que la source de cette kfira, la source de cette situation où la royauté est cachée, cette source-là, c'est le cœur de l'homme. C'est nous qui ne voulons pas voir. C'est parce que nous sommes capables de ne pas voir que les choses nous apparaissent de cette manière-là. Le secret du mal, ce mal, qui est dans le cœur de l'homme en fait. Dans la Torah, il porte un nom, dont je vais parler justement maintenant. Dans la Torah, ce secret qui est dans le cœur de l'homme, en fait, le nom de ce secret, c'est Amalek. il y a eu création, par Hachem bien entendu, création d'un peuple qui a amené au monde l'idée de Lo Yare Elohim, de ne pas craindre Elohim, pas de Yirat Hachem. Et cette non-Yira, elle s'est répandue dans le monde entier. Et c'est pour ça que la Torah dit « Timche et Zecher Amalek » et « Tachad HaShemaim Lo Tishka » Tu dois effacer le souvenir d'Amalek même. Ça doit être complètement oublié. Cette espèce de virus ou de non-yira. Est très contagieux. Il remplit le monde. Il aveugle les gens. Et il leur permet de ne pas voir la royauté. Il est si metamtem à lève, de telle sorte il, quelque chose, on peut dire, il bouge toute la sensibilité du cœur, de telle sorte que on ne ressente pas la royauté divine. Bon, pour l'instant, il y a un peuple qui va, si vous voulez, représenter cela. Mais c'est quelque chose qui est dans le cœur de l'homme. Si c'était un peuple, on pourrait finir facilement, si ce n'était qu'un peuple. Pardon ? Alors, là, ces questions-là, d'accord, j'ai qu'une seule réponse, c'est que je n'étais pas là au premier cours sur la psychologie divine, donc je n'ai jamais réussi à rattraper. Donc, je ne sais pas. Pardon ?
C'est pas pour nous transmettre quelque chose.
Non, 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 c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas poser la question « pourquoi » en un seul mot.
Ah.
C'est « pourquoi », à quelle fin.
Oui, c'est ça.
Cette question-là, on peut la... D'accord. Cette question-là, c'est une autre affaire. J'aime veux quelque chose de nous.
Oui.
C'est pas savoir pourquoi lui pense comme ça.
Oui,
ça viendra.
C'est le sens.
Et ça, c'est presque, si j'ose dire, inné, ce qu'il a mis à l'intérieur de nous. Nous sommes nés avec
cela. Oui.
Sinon, c'est pas juste.
C'est pas le cerveau dans lequel vous êtes qui amène ça dans le cœur.
Non, c'est. Le serpent, c'est un autre niveau, un autre niveau. Si c'est. Pour l'instant, c'est Amalek. Mais Amalek, c'est pas loin d'être le serpent. Et si vous voulez, il y a des principes qui se matérialisent de plusieurs manières. Alors ça peut se matérialiser sous forme d'une narrache, de serpent, ça peut se matérialiser sous la forme d'Amalek, d'un peuple, ça peut se passer, mais c'est toujours le même principe qui prend, selon les circonstances, etc., il prend des formes différentes. Et ce ne sont jamais que des formes différentes de la même chose. C'est l'homme qui l'a introduit en lui.
C'était que nous qui l'avions.
Non, pas nous seulement. Il y en a partout.
Mais je pense que les
peuples
d'Afrique, ils adorent
tout. Oui, même tout le monde a ça. C'est la condition humaine. Bien sûr que les gens qui ont travaillé sur eux, le Rabbetz Chaim, il a sûrement vu les choses comme Adam Arishon les a vues. La nevoie, la prophétie, en fait, peut-être qu'elle elle peut exister, elle existerait ailleurs, sur la Lune, je ne sais pas, par exemple, comme dans le Gan Eden, de telle sorte qu'on ne puisse pas se cacher. Pour cette histoire de se cacher, bon, ça vous connaissez, c'est Adam qui se cache. Mais c'est... Il se cache et il pense qu'Hachem ne le voit pas. Mais c'est lui qui se cache. C'est lui qui le croit. C'est son imagination de penser une chose pareille. Bien sûr, ce n'est pas aussi élémentaire que je le dis comme ça, parce que nous, on comprend bien qu'on ne peut pas se cacher. Il n'était pas plus bête que nous, Adam Arishon, quand même. Oui. C'était, quand on dit qu'il s'est caché, etc., c'est pas simplement jouer un cache-cache avec Hachem. Il se trouve que Akadosh Baruch Hu, il utilise cette volonté qu'on a éventuellement de diminuer la toute-puissance divine. C'est là, parce que faire comme si Hachem ne me voit pas. Celui qui est décrit comme pensant qu'il y arrivera, c'est ce fameux Bilam. Bilam qui, Bas Hachem lui demande qui sont ces gens qui sont venus te consulter, là. Alors, le Midrash dit que Bilam, il se dit, ah, Hachem ne sait pas, il sait. Alors j'ai peut-être une possibilité de rouler. Alors, je vais aller, il me dit que je ne peux pas maudire, mais je trouverai peut-être quand même un moyen, et c'est bien ce qu'il a cherché à faire. C'est dit que s'il trouve quand même un point de vue à partir duquel le clan d'Israël apparaîtrait assez négatif, il pourrait obtenir, réussir à maudire le clan d'Israël. Hachem lui a dit, tu diras ce que je dis, mais il pense que... Ça veut dire quoi? Il entend qu'Hachem lui pose une question et au lieu de se dire, mais bien sûr qu'on ne peut pas prendre la question comme si c'était une question ordinaire. On est obligé, quand quelqu'un pose une question, de demander qui pose la question. La question, elle n'existe pas indépendamment de celui qui la pose. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose si c'est un spécialiste d'une question qui pose, d'un sujet qui pose une question sur le sujet, ou si c'est un naïf qui pose la question. Peut-être que les mots peut-être sont les mêmes, mais c'est pas du tout la même. On ne parle pas du tout de la même chose. Donc c'est nous, les hommes, qui effectivement faisons en sorte que la nature cache Hachem. Parce qu'au contraire, la nature, quand on veut bien la regarder, elle nous révèle Hachem. Elle révèle des perfections qui ne sont pas humaines. Donc qui elles nous disent chose qui ne va pas là. Tu ne peux pas. Ce n'est pas dans l'ordre des choses, cette perfection-là. C'est, les probabilités montrent que c'est totalement improbable ou peut-être même impossible. Et pourtant. Et donc, ce cheminement-là, il va nous amener à reconnaître Hachem. Mais on peut être sourd, on peut être aveugle. C'est ce principe d'Amalek qui nous rend sourds, aveugles, etc.
Oui. En colère, il y a une telle heure les jours.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas humanisé si c'est vrai, s'il a remarqué, s'il le dit, c'est qu'il a constaté.
Oui, non, Père, on ne dit pas qu'il le sait, on ne dit pas que c'est un mensonge.
Non, mais est-ce que le fait de.
C'est pas qu'il a réussi à savoir quelque chose que Hachem voulait cacher.
Non.
Il y a un principe qui existe, il y a peu de gens qui sont au courant. Mais comme il y a plein de choses aujourd'hui dont nous ne sommes pas au courant, qui sont quand même des principes fondamentaux, je ne sais pas, de cosmologie, etc., donc personne ne comprend rien, ou très peu de monde. Cette colère divine, quand on utilise des mots, évidemment tous les mots sont des mots humains, mais bon, il faut savoir ce que ça veut dire en fait. On peut réfléchir effectivement sur qu'est-ce que c'est que ce Hester de la royauté divine. Cette occultation quasiment de cette royauté divine. Il n'y a aucun problème. C'est sûr que la royauté elle-même, elle est dévoilée. Il n'y a pas, Hachem n'a pas mis d'écran qui nous empêcherait de la voir. Mais comme on a vu, c'est le cœur de l'homme qui tisse cet écran, qui le sépare, c'est des écrans successifs, qui le sépare du Créateur. Est-ce que si on regarde bien, est-ce qu'on ne voit pas la présence divine, à la limite, dans chaque brin d'herbe, dans chaque arbre, dans chaque être vivant, etc. Donc maintenant, notre vision est empêchée en quelque sorte par ce fameux principe qui s'appelle Amalek. Et donc, l'opération de dévoilement de la royauté s'appelle destruction totale, éradication totale d'Amalek. Il faut enlever cette possibilité de l'homme, cette tendance qu'a l'homme de mettre des écrans pour ne pas voir. Dans l'éradication d'Amalek, il y a deux choses. C'est un Yalkut qui dit Amar Avitzrak. D'un côté, c'est marqué que c'est Hachem qui dit Machoemche, j'effacerai. Hachem dit, moi j'effacerai Amalek. Et d'un autre côté, il y a les psukim qu'on connaît bien, qui disent Timche Zefer Amalek, qui nous disent à nous de le faire. Pourquoi il y a un verset qui dit c'est Hachem qui va le faire? Et un autre verset qui dit, c'est à nous de le faire. Alors, le fameux Midrash, il dit, Akadosh Baruch nous dit, vous devez effacer son souvenir sur terre. Et moi, j'effacerai son souvenir dans le monde d'en haut. Il y a donc un effacement, une éradication d'Amalek par les hommes, et il y en a une par le Créateur. Un instant. La nécessité de détruire le mal
elle incombe à l'homme, c'est-à-dire à chacun selon ses forces. Jusqu'à ce que le Créateur lui-même annihile complètement ce mal à la racine, en quelque sorte. Il l'éradique complètement. Chazal donne un exemple. Il dit, il y a un grand rocher qui est en plein milieu du chemin. Et le roi dit, il faut que vous l'éliminiez. Mettez-vous au travail jusqu'à ce que je vienne, moi, avec mes moyens, et à ce moment-là, j'enlèverai complètement ce rocher. C'est notre travail d'être ceux qui vont éradiquer ce mal, même d'éradiquer le souvenir d'Amalek même. On comprend bien que dans le dévoilement de la royauté divine, il y a la même chose. Il y a aussi ce que l'homme peut faire en dévoilant cette royauté divine. Comment est-ce que l'homme dévoile la royauté divine? Grâce à ses actions. On va agir de telle sorte qu'on voit la royauté divine. Mais le Créateur lui-même, il peut évidemment dévoiler sa royauté à l'homme, montrer à l'homme cette royauté. Akadosh Baruch Hu a dévoilé sa royauté. Où est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait à la sortie d'Égypte. Il l'a fait au passage de la mer. Il l'a fait à Matan Torah. En vérité, tout le développement de la création, depuis le début jusqu'au temps messianique, c'est un long chemin de dévoilement, un long processus de dévoilement. La vérité, c'est que quand Hachem crée le monde, c'est déjà un dévoilement. Il y a un dévoilement d'Hachem en tant que créateur. Il apparaît. Seulement, on peut évidemment détacher la création du créateur. On peut cacher la divinité qui est à l'œuvre dans la création. On peut. Il y a la création. Elle ne porte pas obligatoirement le nom d'Hachem. Matan Torah, c'est un dévoilement déjà plus grand. Une clarification plus grande. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas cacher déjà. Mais le problème, c'est que ce dévoilement-là, seuls les Bnei Israël en ont eu conscience. Les peuples sont restés dans cette obscurité par rapport à ça. Et parce que il y a une possibilité, parce qu'il y a, si vous voulez, il existe un lieu où effectivement cette obscurité règne, alors elle peut s'étendre. Elle peut recouvrir le clan d'Israël aussi. Le clan d'Israël peut revenir à une situation dans laquelle, lui non plus, il ne voit pas la divinité. Et ça peut durer jusqu'à, ça va durer jusqu'à la Géoula finale. À ce moment-là, ce sera un dévoilement total au monde entier. Et ça va éradiquer complètement le mal. À la racine, de la racine. Et ce dévoilement-là va se faire pour tous les peuples. Mais ça sera, et ce sera à ce moment-là un dévoilement qui ne sera plus jamais obscurci, en fait. Et c'est pour ça que nos prières, elles vont suivre ce processus. Création, Matan Torah, libération. Dans la prière du matin, Yotzer porte sur Maase Bereshit, on parle la première bénédiction avant Kriyat Shema. Yotzer porte sur Maase Bereshit. Ensuite, il y a la deuxième bracha qui commence à Avaraba, qui parle de l'amour d'Hachem, etc., qui parle de Matan Torah, qui parle du deuxième échelon, en quelque sorte, Matan Torah. Et la bracha qui suit Shema, Emet Yatsiv, etc., ça parle de la Geoula. Même chose à Arvit. Et Shabbat, même chose. Vaïchoulou, le soir. Vaïchoulou, c'est Maase Bereshit. Ça parle de la création. Dans la Amida du matin, Ismach Moshe, ça parle de Matan Torah. Et Ata Echad, Shimcha Echad, ça parle des temps messianiques. Comme ça que l'homme prie, en vérité, en utilisant toujours ce processus de dévoilement. Pour que lui aussi, l'homme lui aussi, ce processus-là l'imprègne et que pour lui aussi les choses deviennent claires. On doit arriver à cette clarté que le Créateur est Melech al-Olam Kulo, il est le roi du monde entier, et le mal n'existe pas, n'existe plus du tout. Le dévoilement d'Hachem, c'est ce qui va créer, va rendre obligatoire un dévoilement dans le cœur de l'homme aussi. C'est-à-dire que l'homme en vienne à ressentir de façon absolument évidente la présence divine dans la création. De telle sorte qu'il voit lui-même, que l'homme voit lui-même tous les miracles de la création. Voit le Créateur. Et le Rav Wolver ramène ici au nom de son maître, Rabbi Rucham, que Rabbi Rucham a expliqué une Gemara. La Gemara dit dans Masechet Rosh Hashanah, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ce verset-là, il dit la royauté, dit Rabbi Yossi. Mais Rabbi Yehuda dit non, c'est pas la royauté. Et la dispute, elle porte sur d'autres versets aussi. Parce que pour Rabbi Yehuda, le verset qui dit la royauté, c'est le verset que Vahi Bishurun Melech. Bishurun, c'est un des noms du clan d'Israël. Il y a un roi pour Israël. Bien, Hashem Elokav, Mo Utroat Melech Bo. Et ça, c'est étonnant. Pourquoi ? Ça veut dire, pour Rabbi Yehuda, quand on proclame que Hachem Elokeinu, Hachem Echad,
pour lui, on ne voit pas là la royauté. Donc pour lui, si vous voulez, on ne peut pas mettre ce verset-là parmi les 10 versets qui parlent de la royauté. Contrairement à ce que nous faisons. Nous, la halakha n'est pas comme lui. Alors, maintenant, qu'est-ce que Rabbi Yocham a dit? Rabbi Yocham a dit, bon, avec toute la préparation du Rabbi, c'est facile à comprendre, que les malchouyot, les versets qu'on dit, les 10 versets qu'on dit qui parlent de la royauté, sont des versets qui parlent d'une royauté qui est perçu concrètement, quelque chose qu'on peut voir avec ses propres yeux, pas quelque chose qu'on sait intellectuellement. Il faut que les choses soient claires dans mon cœur, c'est-à-dire au niveau de la sensibilité. Et il faut aussi que l'œil puisse le voir. Donc, on a une marquette entre discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda sur qu'est-ce que c'est la royauté finalement. Est-ce que c'est obligatoirement une royauté qui est constatée, qui est vécue, qui est ressentie par l'homme? Ou est-ce que c'est une notion abstraite? On sait, on comprend, Shema Israël, on comprend, on réfléchit, on voit que Hachem est roi. Vaï Bishurun Melech, justement là-dessus, sur ce verset, il y a une discussion pour savoir de quel Melech on parle. Est-ce que c'est Hachem? Est-ce que c'est Moshe? Ou est-ce que c'est la Torah? Effectivement, les psukim de la Torah, parce que ce que je ne vous ai pas dit, je ne vais pas tout dire, mais je vais le dire quand même, c'est que dans les 10 versets, il y en a 3 qui sont de la Torah, 3 qui sont des Nevim, et 3 qui sont des Ktuvim. Si vous voulez, Teilim, Mishlei, ça. Vous me direz, 3 fois 3, ça ne fait toujours pas 10. Alors effectivement, on avait un problème où... Quel sera le dixième? Alors, nous, on va dire Shema Israël. C'est un passouk de la Torah, bien entendu. Mais, ce n'est pas un passouk aussi évident que Vayi Bishurun Melech. Alors, effectivement, on a un passouk, par exemple, Lo Ibitz Avem Be Yaakov. Troua Melech Bo. On parle de la sonnerie de Troua, du roi. Bo, en lui, avec lui. Donc dans le cœur de l'homme, dans ce cœur, dans son cœur vraiment, la Troua Melech, cette sonnerie du shofar, on doit l'entendre comme une sonnerie qui proclame la royauté d'Hachem. Ça, c'est du point de vue du dévoilement d'Hachem. Alors, effectivement, à Kriyat Yamsouf, les Bnei Israël sont bien arrivés à ce degré de vision. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Shira? Zé Keli, Zé dans la Torah, c'est toujours quelque chose qu'on peut montrer du doigt. Zé Keli Vandé. Ils ont vu la manifestation divine, le passage de la mer, ils disent, ah ça, on connaît. Ça, c'est mon Dieu. Donc ça, vous connaissez probablement le Midrash qui dit d'où ils le connaissaient, comment ils ont pu dire. Quand tu disais, ah ouais, oui, c'est lui. Identifié, mais du tout, vous le connaissez d'où? Vous connaissez, il faut le raconter ou bien tout le monde sait?
sais pas. C'est marqué que quand les Égyptiens ont empêché les Bnei Israël de se multiplier, alors il y a eu un S, il y a eu un miracle, que les femmes allaient accoucher dans les champs. Et les enfants, quand ils naissaient, les bébés, ils s'enfonçaient dans le sol. Et il y avait toute une vie souterraine. Et là, ils étaient auprès d'Hachem. C'est comme c'était souterrain, cette ville souterraine, en quelque sorte, était un miracle. Ils étaient en présence d'Hachem. Donc eux, ils ont connu Hachem à ce moment-là. Les Bnei Israël, à ce moment-là, quand ils sont sortis à Kriyat Yam Suf, à un moment là-bas, ah, Zéguilimoué, on a vu. C'est lui qui était là. C'est lui qui était avec nous sous la terre. C'est lui qui nous a. Qui s'est occupé de nous quand nous étions sous terre. Donc ils ont bien vu. Un matin de Torah, on ne pouvait pas ne pas voir. Bon, jusque-là, c'est un guiloui de la malchoute. Par Hachem lui-même. C'est Hachem qui se dévoile. Il dévoile sa royauté. Mais on a dit qu'il y avait aussi un guiloui, un dévoilement de la royauté qui doit être fait par l'homme. Ça, c'était le niveau des Avot. Le dévoilement d'Hachem, c'est Abraham qui a commencé. C'est lui qui a commencé à faire connaître, à publier Hachem dans le monde. Publier avec même les Razal qui disent qu'il donnait à manger aux gens et quand les gens voulaient le remercier, alors il disait, c'est pas moi, c'est... Donc il a fait connaître. Mais quand il dit, c'est pas moi, c'est Hachem, c'est de quoi? C'était bien lui qui les a servis, non? Donc c'est vraiment, ce sont les hommes, c'est un dévoilement par les hommes. Ça veut dire quoi? On va se conduire de telle sorte que ça va faire reconnaître Hachem. Pourquoi? Parce qu'on va bien se dire que cette personne qui se conduit de cette manière-là, qui n'est pas la façon standard de se conduire, elle obéit à une loi qui lui a été donnée, elle obéit à son Créateur, et donc ça permet de dévoiler le Créateur. D'accord? Quand on dit Elokei Abraham, Hachem accepte qu'on dise qu'il est le Dieu d'Abraham. Ça veut dire quoi? Hachem accepte que, en regardant Abraham Avinu vivre, on reconnaisse ici, voilà. C'est ça qu'Hachem veut. Et donc, on reconnaît Hachem dans la conduite exceptionnelle d'Abraham. Pasuk qui dit Vashbiacha Bashem Eloke Hashamaim Veloke Haaretz. Je te conjure, je te demande de jurer en prenant comme référence Hashem qui est le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Donc Hashem est présenté ici, Dieu du ciel, Dieu de la terre. Et ensuite le Pasuk dit Hashem Eloke Hashamaim Asher Lekachani Mibetavi. Hashem le Dieu du ciel qui m'a pris dans la maison paternelle, etc. Et Rachid dit, pourquoi il ne dit pas lui-même, Yaakov, il ne dit pas Lo Amar ve Eloke Haaretz, pourquoi il dit Eloke Hashamayim, pourquoi il ne dit pas Eloke Haaretz aussi, pourquoi il ne dit pas Eloke Haaretz? Alors que dans Vashbiacha, il a dit Eloke Haaretz. Alors, Yaakov Avinu a dit, maintenant, il est Eloke Hashamayim. Et aussi, Eloke Haaretz. Parce que j'ai habitué les gens à le reconnaître. Maintenant, Aval mek shlakachani mi bet avi. Mais quand il m'a pris de ma maison paternelle, c'est-à-dire quand j'ai dû fuir, etc., à ce moment-là, il était seulement Eloke Hashamayim, Eloke Haaretz. C'est par ma conduite qu'il est devenu Eloke Haaretz. Il est devenu le Dieu de la terre, Dieu sur terre, enfin, pas sur terre, Dieu de la terre, parce que moi, je l'ai fait reconnaître comme tel. Dans ma conduite, j'ai fait reconnaître que cette conduite ne venait pas de ma petite tête ou de mon petit cœur, d'accord, mais que j'obéissais ici à Hachem, et les gens ont commencé à comprendre, à connaître Hachem, si vous voulez. Donc il est devenu, par ma conduite, il est devenu Elokei Haaretz. Ça veut dire, la terre se gouverne selon Elokim. Les gens, ils ne le connaissaient pas. Les gens ne mentionnaient pas son nom. C'est extraordinaire ici. Si on peut parler comme ça, Hachem est devenu Eloke Haaretz parce que Avraham Avinu a habitué les gens à le reconnaître. Jusqu'à ce que tout le monde l'a reconnu. Et les Avot vont continuer aussi faire ce travail-là. C'est un dévoilement extraordinaire. Et ce dévoilement-là, il est dû au travail d'Abraham Avinu sur lui-même. C'était ça, c'était son travail. Le Ramban, il explique comment est-ce que les Avot ont fait, comment ils sont arrivés à faire ce qu'ils faisaient. Il l'explique sur le pasouk qui dit Vaïkra Beshem Hashem. Littéralement, Vaïkra Beshem Hashem, c'est-à-dire il a crié le nom d'Hashem. Et le Ramban dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Abraham Avinu aya kore bekol gadol Shem lifnei ha-mizbeach. C'est-à-dire que devant l'autel qu'Abraham avait construit, il criait le nom d'Hachem, le nom divin, le nom d'Hachem. Donc il faisait connaître ce nom à tout le monde. Et alors, le texte ne le dit pas au sujet d'Yaakov. Parce que lui, Jacob, il a eu beaucoup d'enfants, par rapport à Abraham Avinu, évidemment, qui tous servaient Hachem. Donc il avait toute une communauté, si on peut parler comme ça, qui s'appelle Adat Israël, qui va s'appeler la communauté témoignante d'Israël. Et la Emouna en Hachem, la confiance en Hachem, elle s'est propagée grâce à eux. C'est ce que dit le Midrash, Melamed, Sheikrash Moshe Lakadosh Baruch Hu Befi Kol Beria. Ça vient enseigner que il a fait en sorte que le nom divin soit dans la bouche de toutes les créatures. En fait, il a tellement fait connaître, toutes les créatures connaissaient ce nom-là. Et c'est ça qu'on dit quand, sur Abraham Avinu. Il a fait connaître, il a fait dire ce nom par la bouche de toutes les créatures. Ça correspond à ce qui est écrit à son sujet. Vaïta Eshel Viver Shava, Vaïkra Sham Beshem Hashem Kel Olam, Shelimed Kol Aorchim Leakir HaKadosh Baruch Hu Mima Sheneinu Sham. Kedita Sham Berashi. C'est ce que je vous ai dit. Abraham Avinu, quand on dit qu'il a planté là-bas à Echel, une explication d'Echel, c'est une auberge, à Be'er Sheva, et les gens venaient, ils étaient nourris, quand ils voulaient remercier Abraham, l'aubergiste en fait, alors il disait non, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Hachem. Donc il a fait en sorte que les gens reconnaissent Akadosh Baruch. Là qu'on voit ici, les actions des Avot. L'action des Avot, c'était de publier la divinité, le fait que la divinité d'Hachem. Avraham Avinu, il a fait ça en pratiquant le chesed, par sa générosité. Yitzhak Avinu, il l'a fait par sa famille. Pardon, Yaakov Avinu, il l'a fait grâce à sa famille, comme on a vu, qui était une Edash Leman. Kol Mishera Otam, Yada Mehem, et Akadosh Baruch Hu. Tous ceux qui voyaient la famille de Yaakov Avinu, ils reconnaissaient Hachem. Jusqu'à ce que ce soit vraiment à ce point connu dans le monde, qu'ils deviennent Elokei Haaretz, le Dieu de la terre. Donc, de la même manière que le Créateur lui-même, il publie son nom à Kriyat Yam Suf, au passage de la mer, avec les Nissim et aussi au passage à Matan Torah, hein, de la même manière, un homme, un grand homme, une grande femme, peut effectivement le faire connaître par ses actions. Les actions sont tellement pures, tellement extraordinaires, il n'y a pas de doute, parce qu'il n'y a pas, parce qu'il y a pas de, il n'y a rien de mal dans tout ce qu'ils font, que cette Kedusha qu'ils expriment par leur conduite ici, elle fait connaître Hachem par le monde entier. Bon, on va s'arrêter là. Ah, pardon? Ben si, je vous ai dit, Yitzhak, c'est le personnage central à Rosh Hashanah. C'est par le mérite de Zohar HaBrit, c'est le Brit qui a été fait, mais c'est le Brit qui concrètement, si vous voulez, c'est toujours Yitzhak Avinu, le modèle, en quelque sorte. Le modèle, c'est Yitzhak Avinu.
Mais si Hachem voulait faire connaître le nom pourquoi Abatan Torah
Vous n'avez pas lu les versets d'avant. Les versets disent qu'Hachem est allé proposer la Torah à Esav et à Ishmaël. Ils ont dit non. Ils ne voulaient pas. Si vous voulez, ce n'est pas tellement glorieux même pour Israël, parce que quelque part, nous on a accepté presque par défaut, quoi. D'abord, c'est parce que les autres n'ont pas accepté, alors on s'est tourné vers nous. Mais on était, semble-t-il, on n'était pas le premier choix. C'est en soi assez étonnant, d'ailleurs.
Moi, j'avais cru comprendre, une fois que c'était à faire poser, que finalement, la question avait été posée aux autres peuples, mais en leur donnant le côté négatif.
Non, mais ça, exagéré. Ça, j'ai déjà expliqué des tas de fois pourquoi ils ont donné, pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné le côté négatif. Je vous ai déjà expliqué une fois que c'était une session de rattrapage. Parce que les Umot HaOlam, quand on leur a proposé la Torah, ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a dans la Torah. Avec ça, ils avaient déjà perdu. Parce que si tu demandes ce qu'il y a, c'est que tu te poses en juge de la Torah. Tu te mets au-dessus de la Torah. Tu vas dire oui, non. Même quand tu dis oui, c'est toi qui as bien voulu, donc toi t'as jugé, ta Torah, c'est bien, c'est un bon truc, on va prendre. Et c'est pas, ils avaient déjà perdu, parce que la Torah, acceptée comme ça n'a pas de sens. Alors maintenant, comment ils pouvaient se rattraper? On leur a dit, voilà, il y a quelque chose qui doit un peu vous faire réfléchir. Parce que je vous propose la Torah, et je vous dis en même temps qu'elle n'est pas possible si on s'en tient à vos caractéristiques spécifiques. Vous vivez de rapide, ou bien vous vivez de meurtre, et la Torah l'interdit. Et maintenant, comme on l'a dit très souvent, il faut regarder qui parle. C'est Hachem qui te propose une chose pareille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est même un très mauvais commerçant. D'accord, je te propose un objet, je te dis qu'en fait, il n'est pas pour toi. Hein, c'est impossible. Mais parce que c'est Hachem qui le propose, il faut comprendre qu'effectivement, à vue humaine, ça n'est pas possible. Mais on ne te demande pas justement de l'accepter à vue humaine. On te demande de l'accepter parce que c'est Hachem, ton créateur, qui te le propose. Donc c'était une séance de rattrapage. Vous avez raté, mais si vous, sachant que ce n'est pas pour vous, néanmoins vous dites, mais puisqu'Hachem le propose, je pourrais y aller quand même, tu peux te rattraper. Oui.
Ils ont institué la haine. Il y avait eu la haine entre les frères. Shimon, il y a peut-être eu un village, je ne sais pas
pourquoi. Oui, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. La question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'il y a eu du déchet chez Abraham, Ishmaël, du déchet chez Yitzhak et Sam. Il n'y a pas de déchet, on dit, sur Yaakov. Ça veut dire que, comme vous dites, ben, ça fait tout un village, etc., où la haine qu'il y avait eu entre Yehuda et Yosef, etc., tout ça, ça ne les a pas disqualifiés. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose de plus fondamental chez Ishmaël et chez Esav, plus fondamental au sens fondamentalement incompatible avec la Torah. C'était radicalement incompatible avec la Torah. C'est comme s'il devait se transformer du tout au tout. Mais effectivement, les Bnei Israël, dans les fils de Yaakov, il y a des gens qui ne se sont pas très bien conduits. Si écoutez, lisez les brachot, ce qu'on appelle les brachot de Yaakov, à ses enfants à la fin de sa vie. On lui dit que Shimon et Lévi, etc. Regardez Moshe Rabbeinu, qui ne donne pas de bracha à Shimon et qui ne lui donne pas de territoire à Shimon, au point que c'est Yehuda qui va donner une partie de son territoire à Shimon. Bon. Vous voyez que ce n'est pas des gens bien sous tout rapport, semble-t-il. Mais, malgré tout, ils proclamaient Hachem. C'est ce qu'ils ont dit, en fait, à Yaakov. Quand ils lui disent Shema Israël, ils lui disent, c'est vrai, on est complètement différents. Donc, tu peux avoir l'idée que tu as raté, parce que tu devais former comme un peuple, et voilà, tu as 12 peuples différents. Il dit, mais non, on est quand même un seul peuple. Donc, mais tout ce qu'on a, tout ce qu'on a en commun, c'est notre Emouna Bachem. Pour le reste, on est très différents. Et on n'a pas obligatoirement des relations très apaisées les uns avec les autres. Mais on peut passer par-dessus, mais dans l'histoire, il y a eu des choses terribles. À l'égard de la tribu de Binyamin, etc., des choses absolument terribles, un schisme, finalement. D'accord. On a, avec à la suite de ce schisme, on a quand même perdu, en gros, 10 tribus, enfin 9 tribus et demie du clan Israël qui ont disparu. Bon, parce qu'ils ne sont pas spécialement bien conduits. Et les Israël ne sont pas très bien conduits, on a perdu les deux Batei Mikdash, mais. Si vous voulez, c'est un peu compliqué à comprendre, mais l'amour d'Hachem pour le clan Israël est plus fort que ça.
On parle de clan Israël, c'est pas individuellement, on parle d'un bien collectivement. On peut dévoiler Hachem, c'est bien tout le seul.
Mais chacun peut. Il y a le clan Israël, effectivement, mais chacun à son niveau, il est tout à fait capable de dévoiler Hachem. Alors, il n'aura pas l'audience qu'aura tout le peuple. Si on avait tout le peuple qui dévoilait Hachem, on aurait une autre audience. On aura l'audience que peut avoir un individu, qui peut être une très grande audience, suivant où il est, quand il est, comment il se présente.
Hachem avait cette préférence pour les Bnei Israël. Une fois qu'ils ont dit nous ferons, et ou avant déjà.
Non, mais toute la préférence pour le clan d'Israël, elle vient du travail des Avot. Oui. C'est très clair que nous ne sommes pas sortis d'Égypte par notre propre mérite. Nous sommes sortis d'Égypte parce qu'Hachem l'avait promis aux Avot. Hachem le répète sans cesse, ne crois pas que c'est grâce à toi même que je m'occupe de vous, mais c'est que je l'ai promis aux Avot.
Donc cette préférence a été construite.
Bien sûr, c'est toujours construit. C'est construit par les hommes, par Abraham, Israël et Jacob.
Je mets la clé.